Est-ce que vous avez soif de Dieu? Est-ce que quand vous venez au culte, c'est la soif de Dieu qui vous amène ici? Qu'est-ce qui fait que vous venez ici? Avez-vous soif de Dieu? Il y a des gens qui ont soif du bon prédicateur, qui ont soif de la bonne présidence, qui viennent au culte et qui ont soif, il y en a plusieurs, j'entends ça souvent, qui ont soif de la bonne louange, de la qualité, etc., de nos cultes. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ici ce matin? Est-ce que vous avez soif de Dieu? Quand vous priez, est-ce que c'est la soif de Dieu qui vous pousse à prier? À quel point, combien de fois vous dites à Dieu, j'ai soif de toi? Il y a plusieurs soifs qu'on peut avoir. Hein? Vous l'avez entendu ce matin, et plein de gens dans les cultes, les dimanches matins, viennent avec toutes sortes de soifs. Et Dieu en est très triste. S'il y a bien quelque chose qui attriste le cœur de Dieu, c'est ce manque de soif de Dieu. Le manque de soif de sa personne. Tout le monde a soif de quelque chose, que ce soit chrétien ou non. Et tout le monde essaye d'étancher sa soif à coup de vacances originales, par exemple. Ça, on le voit souvent sur Facebook, hein, pour ceux qui sont sur Facebook. Hein, il y a plein de gens qui postent plein de... Voilà, j'ai fait ça, tout ce qui est extraordinaire, on va le poster, parce que c'est tellement bien de se montrer comme ça devant les autres. Soif de grandes œuvres d'art, soif d'effets spéciaux de cinéma, soif d'exploits sexuels, de sports extrêmes, de drogues qui font sortir de la réalité, de privations religieuses. Je me prive de ceci, donc je suis un bon chrétien, moi. D'excellence professionnelle, etc. Il y a toutes sortes de soifs. Et au cœur, en fait, nous avons tous soif du bonheur. Et si quelqu'un n'a pas soif du bonheur, il y a un problème dans son être intérieur. Souvent, de telles personnes sont dans des hôpitaux psychiatriques ou quoi, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En nous, naturellement, nous avons une soif de bonheur, une soif de joie. Et vous savez quoi, notre soif, en fait, la plus profonde, c'est la soif de Dieu. Qu'on soit chrétien ou non, qu'on le reconnaisse ou pas, la véritable soif, c'est une soif de Dieu. Les gens vont chercher leur soif dans leur travail. Les gens vont chercher quelque chose auprès de leurs enfants, etc. Une bonne famille, un bon travail, un bon ceci, un bon ça. Ils vont tout mettre. Au point d'être dans un stress tellement important dans leur vie qu'ils vont peut-être ajouter toutes sortes de bêtises pour étancher leur soif. Mais au fond, la véritable soif, qu'ils le reconnaissent ou non, c'est la soif de Dieu. Nous avons été créés, en fait, pour être en communion avec notre Dieu. Nous avons été créés, en fait, pour trouver toute notre joie, notre satisfaction en Dieu lui-même. On a beau chercher, notre cœur sera tout le temps en recherche. Et un mot est bien décrit dans la Bible, c'est l'esclavage. On parle d'esclavage du péché. Être esclave du péché, c'est rien d'autre que cela. C'est continuer à chercher plein de choses qui vont étancher notre soif. Mais en fait, plus on les recherche et plus on est esclave de ces choses. Même des bonnes choses, même des choses légitimes, on peut en être esclave. Seul Dieu peut combler notre cœur. Et voici ce qu'a dit Jésus dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Alors nous sommes en ce moment, depuis le début de l'année, dans une série sur l'évangile de Jean, et nous dégustons en fait ce texte. C'est cet évangile qui est extraordinaire. Il y a tellement de trésors, n'est-ce pas? Et dans les groupes de maison aussi, on prend ce temps de creuser le texte et de voir ce que Dieu veut nous dire. C'est incroyable tout ce qu'on en apprend sur la personne de Jésus. Et on veut encore vivre ce moment-là. Et on était dans Jean 6, dimanche dernier, et maintenant nous sommes dans Jean 7. Et nous voulons lire juste ces quelques lignes, versets 37 à 39. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, comme par hasard, hein, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix, donc il crie. Donc, vous me permettez de crier un peu? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Ça devait bien secouer là. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Voici un texte qui est libérateur. Un texte qui doit retenir toute notre attention ce matin. Tellement nous pouvons en être bénis en comprenant ce que ce texte veut nous dire. On peut en oublier le poulet de midi. Parlons du contexte. Jésus se trouve dans une opposition énorme. Dans sa famille, Jésus fait face à l'incrédulité. Alors on se pose un peu la question, parce que la manière que c'est écrit, si vous lisez les premières lignes de ce chapitre, on se dit, mais attends, mais il y a un problème. On dirait que les frères de Jésus veulent la mort de Jésus. Ils savent très bien que si Jésus va à la fête, c'est chaud pour lui. Ils le savent. Et ils disent, mais si tu prétends être ce que tu dis, alors va te montrer aux autres. Va te montrer aux autres. Et quand Jésus leur parle, il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Et on sait très bien, quand Jésus parle, que son heure n'est pas encore arrivée. Il parle de la croix. On était avec le groupe de maison, on se regarde, on se dit, attendez, ils étaient en train de vivre quoi là? Les frères de Jésus voulaient la mort de Jésus? C'est pas dit, mais pas mal de commentateurs se disent, c'est possible. Tellement ils étaient incrédules, tellement ils n'avaient pas de foi, que celui qui est devant eux est l'homme, est Dieu en fait. Dieu fait homme devant nos yeux. À Jérusalem, la tension ne cesse de monter. On parle explicitement de son arrestation. Les gens disent, les pharisiens disent, on va le mettre à mort ce gars-là. Jésus, c'est fini. C'est très clair, il n'y a plus besoin de réfléchir là. Le texte nous le dit tout de suite. Et pourquoi? Parce que les paroles de Jésus sont jugées comme blasphématoires. Jésus dit qu'il est envoyé de Dieu. Il se dit qu'il est lui-même Dieu. Il se prend pour qui, lui? Puis en plus, tout le monde commence à venir. Il y a des foules qui viennent vers lui. Nous, les pharisiens, attendez, c'est les foules, c'est vers nous qu'ils devraient aller. Comment ça, ils viennent vers un gars comme ça? En plus, fils du charpentier, il se prend pour qui, celui-là? Messie, comment ça, Messie? Si t'étais le Messie, ben, tu serais arrivé dans la gloire. On t'aurait vu sur ton cheval ou je ne sais quoi. Et puis tous les juifs, on serait plus sous les romains. On serait enfin nous-mêmes comme des rois. Mais lui, il vient dans une famille pauvre en plus. Il fallait même trouver une crèche pour... Enfin, il fallait trouver quelque chose pour lui pour qu'il puisse enfin naître. Il se prend pour qui, celui-là? Il est jugé comme blasphématoire. Tout ce qu'il dit. Il fait appel, mais Jésus ne recule pas et lui-même fait appel à l'honnêteté de ses auditeurs. Il dénonce même leur intention de meurtrière. Vous voulez me tuer? Ça fait bizarre, hein? Vous êtes les pharisiens, vous imaginez les pharisiens devant Jésus, et puis ils en ont parlé entre eux. Et puis vous êtes devant Jésus et Jésus il dit, vous voulez me tuer. Mais comment il sait? Qui lui a dit? Ouh, je sais que vous voulez me tuer. Jésus les dénonce direct. Là, c'est très clair. Il argumente à partir de l'écriture au sujet du sabbat. Parce qu'ils sont vraiment en difficulté là-dessus. Hein. Toi, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit pendant le jour du sabbat. Nous, on est les pharisiens, donc... Mais toi, tu n'as pas le droit. Ah bon? Il défend sa conception du Messie. Il fait comprendre ce qu'est vraiment le Messie. Et derrière moi, il lance un avertissement. Les autorités religieuses et la foule même se divisent eux-mêmes à son sujet. Et ce qui se passe, on retrouve Nicodème. Vous vous rappelez de Nicodème? Il est le seul des pharisiens à prendre sa défense dans le texte. Mais au centre du passage, la voix de Jésus se fait entendre. Il crie que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Et là, il dit lui-même qu'en fait, qu'il est à la vérité de la fête des cabanes. Nous sommes là dans la fête des cabanes qui rappelle la sortie de l'Égypte. Et très intéressant, ça rappelle même le rocher de l'Exode, vous vous rappelez? Hein? Où l'eau avait jailli miraculeusement. Le peuple d'Israël avait soif et l'eau jaillit pour qu'il puisse boire. Ça rappelle tout cela. Et Jésus lui dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En fait, il faut dire tout de suite ce que veut dire ce texte. Jésus rappelle ici à la foule et aux pharisiens que Dieu, le Père, l'a envoyé sur terre pour étancher leur soif. Je suis là, moi Jésus, pour étancher votre soif. Normalement, pour les pharisiens, votre soif des Écritures devrait être une soif de Dieu. Si vous avez vraiment soif de Dieu, vous viendrez à moi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, tout le monde a soif. Et tout le monde devrait reconnaître qu'il a soif de Dieu. Jésus est en train de dire, si vous désirez être comblé, placez votre foi en moi. Venir à Jésus, croire en Jésus, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on a en tête, mais vous savez, quand on parle de venir à Jésus, ou de croire en Jésus, on parle de se tourner vers celui qui étanche notre soif, celui qui satisfait vraiment notre vie, notre cœur, notre âme. Ça veut dire quoi? Le véritable chrétien, il ne court pas après le péché. Il ne court pas après les loisirs pour étancher sa soif. Il n'est pas esclave des loisirs. Il n'est pas esclave des plaisirs du monde. Il n'est esclave de rien du tout, si ce n'est de Dieu. Il est satisfait en Jésus-Christ. En parlant de soif, toi qui n'as peut-être pas expérimenté l'amour de Dieu, peut-être tu viens les dimanches, tu écoutes des messages et tu es spectateur, tu regardes ce qui se passe. Et tu dis, mais moi, je n'ai pas vécu tout ça, je ne vis pas la vie de Dieu. Dieu ne se manifeste pas dans ma vie. Je n'expérimente pas la vie de Dieu en moi. Je n'ai pas l'assurance de sa présence. Je n'ai pas l'assurance d'être sauvé. Je n'ai pas l'assurance de vivre éternellement. Si tu n'as pas tout cela, Dieu est en train de te dire, si tu as soif de moi, si tu as soif de Dieu, viens à moi. En fait, reconnais ce matin, premièrement, que tu as soif de Dieu. Reconnais premièrement que tu as soif de Dieu. Si nous avons tous soif de bonheur, moi je fais partie de ces personnes qui sont allées dans des directions très mauvaises à cause de cette soif. Cette soif est censée nous amener vers Dieu, et après elle m'a amené vers Dieu, heureusement. Mais j'ai grandi en ayant soif d'un père que je n'ai pas eu. Cela a perturbé mon enfance. Les copains d'école avec qui j'étais faisaient que je me réfugiais dans l'orgueil, l'égoïsme. Je suis Manu, quoi. Vous vous rappelez, hein, j'avais dit ça une fois. Je suis Manu, quoi. Très insolent. Je me forgeais une carapace. Et les copains d'école étaient très Ils arrivaient avec des photos de femmes nues, etc. Et donc moi, je me suis réfugié dans la pornographie pour être aidé, secouru dans l'estime de moi-même. Cela a étanché d'une certaine manière ma soif ? Non. Ça m'enfonçait davantage. J'étais esclave d'eux. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ, ma vie a totalement changé. Quand vous commencez à toucher, un peu comme cette femme qui a touché le bord des vêtements de Jésus, mais à venir à Christ, à reconnaître votre soif et à venir à Christ, vous ne pouvez pas être le même, rester le même. Il a étanché ma soif. Et je peux vous dire que ce jour-là, j'ai compris qu'il n'y a pas de joie ni de satisfaction plus grande que de connaître Jésus-Christ. Aucune joie ne peut dépasser la joie d'être pardonné et d'être aimé de Dieu. Aucune. Et toi qui n'as pas expérimenté l'amour de Dieu, peut-être tu fais partie de ces gens-là, j'ai des péchés, je n'y arriverai jamais, j'ai déjà un péché mignon, comme certains appellent leur péché mignon, hein. Donc je ne viens pas à Dieu, il y a plein de gens comme ça, et je ne viens pas à Dieu parce que j'ai mon péché mignon, tu comprends, Manu. Et je me rappelle quelqu'un venait régulièrement à l'église et il m'a dit ça, il m'a confessé ça, j'étais chez lui, et puis il est avec moi, et puis il me dit, Manu, tu sais, j'ai ce péché mignon, Dieu ne peut pas me voir comme ça, bon, je viens à l'église, mais j'ai mon péché mignon, quoi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, et après, qu'est-ce qui se passe ? Quand on croit en lui, des sources, une source qui jaillit. Il y a une puissance de vie quand on vient à Christ. Il y a une puissance de vie qui est à notre disposition. Si tu penses que ce n'est pas possible pour toi, c'est complètement faux. Il y a une puissance de vie pour toi. En Jésus-Christ, quand tu commences à venir à lui, il te comble au point que le péché perd sa force. Alors pour toi qui es chrétien, tu fais partie certainement de ces personnes qui sont comme moi. Je vais dire qui était, parce que Dieu m'a beaucoup repris là-dessus, mais j'étais hier avec Fanny, puis elle me dit, elle est en train de jouer à la harpe, parce qu'elle va avoir un concert cet après-midi. Elle joue à la harpe et puis elle me dit, écoute ce morceau, dis-moi si c'est bien. Et moi j'étais en train de faire des trucs à côté, et j'ai pas vraiment été vraiment attentif à ce qu'elle faisait. Et j'ai dit, ouais, c'est globalement bien, mais j'ai pas réussi à vraiment t'écouter, parce que je connais tellement ce morceau. Vous connaissez tellement ce passage, les amis, que vous n'arrivez peut-être même plus à entendre un texte qui continuerait à transformer votre vie. Quand on est face aux évangiles, on se dit, ben voilà, on est face à un texte. Si j'ai soif, je viens à lui, et puis voilà. Mais je suis déjà venu, quand je suis devenu chrétien, je suis venu à lui, c'est bon. Ce texte n'est pas pour moi, j'ai tant de vie chrétienne, 10 ans, 20 ans, ça ne me concerne pas. J'ai pas besoin de ce texte. C'est pas vrai du tout. Il y a un trésor immense dans ce texte pour le chrétien qui a vécu pendant 40 ans de vie chrétienne. Il en sera bouleversé. Reconnaître ton besoin de Dieu, voilà ce que Dieu veut, même si tu es chrétien de longue date. Comme le dit Jésus, si tu as soif, reconnaisse que tu as déjà soif, que tu as besoin de Dieu. Reconnais ce besoin. Il y a une triste situation. Beaucoup de choses peuvent affaiblir notre soif de Dieu aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, les plaisirs du monde, nous-mêmes, l'orgueil, l'arrogance, l'égoïsme, les péchés secrets non confessés, la négligence de notre vie spirituelle, ô combien nous sommes négligents. Passons si peu de temps dans la prière, si peu de temps dans la lecture de la parole, et nous sommes là à dire, oui, mais ma vie chrétienne, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Oui, mais est-ce que tu passes du temps avec Dieu? Oui, mais les choses du monde m'attirent tellement. Oui, mais tu as laissé tellement de choses entrer dans ton cœur. Beaucoup d'enfants de Dieu passent complètement à côté de la profonde vérité de ce texte. Jésus est le seul capable de nous délivrer du péché. Mais nous oublions souvent qu'il est aussi le seul à rassasier notre âme. Nous plaçons notre foi en Jésus et nous croyons en son pardon, ça, il n'y a pas de problème. Mais nous n'éprouvons pas de sentiment de satisfaction en lui, c'est là le problème. Ils sont nombreux ceux qui se disent chrétiens et qui pensent que venir à Christ implique abandonner toutes les choses du monde que nous aimions pour embrasser d'autres que nous aimons moins. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Des chrétiens qui viennent à Christ, ils se font baptiser, ils viennent, ils donnent leur témoignage. Et quand ils arrivent pour donner leur témoignage, ils disent ah, qu'est-ce que j'ai. Quand j'étais non-chrétien, j'étais drogué, j'étais ceci, j'étais cela. Et vous voyez un enthousiasme extraordinaire. Puis après, d'un coup, ils disent maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. On peut prendre une décision pour Christ. C'est bien. Mais c'est pas normal que nous aimons encore les choses du monde, que celles-ci nous attirent encore au point de nous rendre esclaves. Nous pensons avoir compris que nous devons faire tous nos efforts pour suivre Christ, ça c'est très bien. Mais au plus profond de nous, les choses du monde, ses plaisirs, ses acclamations, ses richesses, tout cela nous reste tellement attrayant. Nous en restons encore esclaves. Et c'est cela qui explique que la vie de ceux qui se disent croyants n'est pas différente de celles qui sont non-croyants. Ça ne donne pas envie. Est-ce que nous sommes encore esclaves de la recherche du plaisir, de l'épanouissement de soi et des biens matériels qui... Est-ce que nous sommes esclaves de ces choses? Est-ce que tout est centré autour de notre personne? Cela ne devrait pas être ainsi. J'ai lu un texte, un livre dernièrement qui m'a vraiment touché. J'aimerais vous lire quelques lignes. C'est David Platt, dans son livre qui s'appelle « Suis-moi », que je vous recommande fortement. Il est excellent. Si vous n'avez pas de livre pour l'été, en voici un qui est excellent. David Platt, « Suis-moi ». Voici ce qu'il écrit. « Quel rôle cela joue-t-il dans notre lutte contre le péché ?» Quand on parle de la satisfaction qu'on devrait avoir en Christ. Quel rôle cela joue-t-il dans notre lutte contre le péché? Voici ce qu'il dit. Le péché reste toujours attirant, même pour le chrétien qui a goûté à la bonté de Dieu. Comment peut-on résister aux tentations de plaisir qui font la guerre à notre âme? Comment le jeune chrétien qui se bat avec la pornographie peut-il désormais combattre l'attrait des images séduisantes de son ordinateur? Une chrétienne qui a les moyens de s'acheter une maison plus grande, une voiture plus luxueuse, des vêtements plus chics et des aliments plus raffinés, comment peut-elle résister à la tentation de se faire plaisir au mépris des besoins spirituels et matériels criant autour d'elle? Au point de la rendre esclave. Et David Platt dit qu'il y a deux options possibles. La première est la plus courante et la plus illusoire. Et d'essayer de vaincre le péché en travaillant dur pour transformer nos actions. C'est-à-dire de résumer notre vie chrétienne. Ah, je dois combattre contre le péché, donc la vie chrétienne, on la résume à je dois faire ceci et cela, et je ne dois pas faire ceci et cela. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous savez quoi? Ça, c'est toutes les religions autour de nous. Hein. Mais ce n'est pas l'évangile. Si vous vivez comme ça, vous ne vivez pas l'évangile. Jésus-Christ n'est pas au centre de votre vie, je suis désolé de vous le dire, mais là, il n'y a pas du tout de puissance de vie pour vous. La vie chrétienne, l'évangile, ce n'est pas « je dois faire ceci, je ne dois pas faire cela ». Voyons la deuxième option. Voici ce qu'il dit, David Platt. « Au lieu d'essayer de vaincre le péché en travaillant dur pour transformer nos actions, nous pouvons vaincre le péché en faisant confiance au Christ ». Qui, lui, peut transformer nos désirs. Waouh! Ici, c'est notre texte. Et vous vous souvenez du texte de Jean 6. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais... Et là, cette fois-ci, c'est soif. Voici comment nous triomphons du plaisir du péché. en laissant Christ triompher en nous par la puissance de sa satisfaction. La convoitise, le mensonge, l'avarice, la soif de posséder nous permettent de trouver du plaisir, mais cela est éphémère. Nous combattons leur attirance en trouvant notre satisfaction en Jésus-Christ. Nous savons, nous croyons et nous avons l'assurance que Jésus est bien meilleur que tout. Nous refusons de nous adonner à tel ou tel péché parce que nous avons trouvé un bonheur supérieur qui est notre Sauveur Jésus-Christ. Nous ne vaincrons pas le péché en travaillant d'arrache-pied pour transformer nos actions, mais plutôt en faisant confiance à Jésus qui transforme nos désirs. Et c'est ici encore la vision de l'Église de Dieu à Ozoir. Connaître Jésus-Christ et lui ressembler au quotidien. Avant de chercher à ressembler à Jésus-Christ, nous devons mieux le connaître. Et connaître Jésus-Christ, c'est croire en lui. C'est plutôt lui faire confiance, vivre dans son intimité, être satisfait en lui. Crier notre soif de Dieu pour enfin étancher notre soif. Alors j'aimerais que vous nous... Il y a quelque chose que vous pourriez... Enfin, peut-être que c'est mal compris, mais j'aimerais bien que faire attention à quelque chose. Quand je parle des plaisirs, il ne faut pas mal comprendre. Le livre d'Ecclésiaste nous invite à jouir de la vie, mais pas sans Dieu, mais avec Dieu. Quand le plaisir devient une fin en soi, et malheureusement pas mal de chrétiens sont dans des plaisirs qui deviennent une fin en soi, quand ceux-ci sont une fin en soi, c'est là le danger. Mais les plaisirs auxquels Dieu veut qu'on se donne, qui sont bons, on parle des bons, hein, pas des mauvais, des bons plaisirs comme vivre, jouir d'une vie de famille, il y a l'amour conjugal, il y a, pour des jeunes, peut-être jouer aux jeux vidéo, etc. Il y a plein de choses où Dieu nous invite à jouir de la vie. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais normalement, les gens qui devraient le plus jouir de la vie, c'est les chrétiens, les amis. Pas les non-croyants. Je vous surprends, là. Ben oui, parce que nous jouissons de la vie non sans Dieu, mais avec Dieu. Nous avons l'assurance de là où nous allons après la mort. Bien sûr, ça n'enlève pas la tristesse du péché, ça n'enlève pas la tristesse de voir des gens qui vont en enfer, ça n'enlève pas la tristesse que nous avons. Mais Dieu nous invite aussi à jouir de la vie. Et pour jouir de la vie de la bonne manière, c'est avec Dieu, en étant reconnaissant pour tout ce que Dieu nous donne. C'est là que nous vivons cela de la bonne manière. Et j'aimerais dire quelque chose qui est surprenant et qui m'a surpris là. C.S. Lewis, un écrivain impressionnant et qui a beaucoup comme un penseur et qui a écrit pas mal de choses extraordinaires, a écrit ces quelques lignes là que je vais vous citer là. Lorsque les courants de pensée modernes prétendent que désirer ce qui est bon pour nous et soupirer après le plaisir sont des attitudes répréhensibles, je les soupçonne d'être influencés par Kant ou les stoïciens et en aucun cas par la foi chrétienne. Et voici ce qu'il dit après. En effet, si l'on considère dans les évangiles le nombre impressionnant de promesses de récompenses et leur nature surprenante, il semblerait bien que notre Seigneur ne trouve pas nos désirs trop intenses, mais au contraire bien trop faibles. Waouh ! Voici ce qu'il dit après. Nous sommes des créatures au cœur partagé qui perdons notre temps avec l'alcool, le sexe et les ambitions personnelles, alors qu'une joie infinie nous est proposée. Il ne parle pas que toutes ces choses sont mauvaises, en soi, mais l'excès de ces choses. Et ensuite, il dit ceci, nous ressemblons à ce petit gamin qui préfère continuer à faire des pâtés dans la boue, dans son bidonville, parce qu'il ne peut pas comprendre le sens de l'offre qu'on lui fait. Aller passer de merveilleuses vacances à la plage. Vous voyez ce que je viens de dire là ? Vous comprenez ce qu'il est en train de dire ? Et ensuite, il finit en disant, nous sommes bien trop facilement satisfaits. Et il provoque. Fin de citation. Mes amis, quand Jésus transforme nos désirs, nous prenons conscience que si nous avons des problèmes avec le péché, ce n'est pas parce que nous recherchons trop le plaisir, mais plutôt parce que nous ne le recherchons pas assez. Parce que si nous recherchons vraiment le plaisir, nous allons arriver à la source du plaisir qu'est Christ. Ça va, vous arrivez à suivre? La source de toute joie, c'est Christ. La source de tout plaisir, c'est Christ. C'est lui qui satisfait vraiment. Et quand on commence à connaître Jésus-Christ, toutes les autres choses perdent leur importance, perdent leur attirance. Jésus-Christ est celui dont nous avons le plus besoin. Le problème du monde n'est pas l'intensité avec laquelle il recherche le bonheur, mais plutôt sa faiblesse. Recherchez encore plus le bonheur. Et si vous recherchez encore plus le bonheur, en fait, vous allez trouver Dieu. Parce que Dieu, c'est lui la source. C'est lui qui en est la source. Voilà, il n'y a pas de plus de grande joie que de trouver son plaisir en Jésus-Christ, dans la communion avec Dieu, avec lui. Quand on parle de source qui jaillira, j'aimerais maintenant finir avec cela, on parle en fait d'œuvre puissante de l'Esprit. Il dit, hein, on voit très bien dans le texte, hein, en disant cela, Jésus, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. L'Esprit se manifestait déjà au temps de Jésus, mais il a dit que quand il serait glorifié, on parle là de la croix, de sa résurrection, de son ascension, et bien le Saint-Esprit viendrait d'une manière toute particulière dans la vie des croyants. L'Esprit de Dieu, normalement, est censé jaillir de nous. Est-ce que le Saint-Esprit jaillit de vous? Le Saint-Esprit que Jésus donne devient en nous, doit devenir en nous, une source qui jaillit. Si nous avons vraiment, si nous chrétiens nous disons, mais oui Manu, mais j'ai déjà bu, j'ai soif, j'ai bu à la source, alors qu'est-ce qui jaillit? Dis-moi s'il te plaît, qu'est-ce qui jaillit de toi? Et là je pourrais te dire que là c'est vrai, tu as bu. Mais qu'est-ce qui jaillit? Quand je vais au parc de la Doute, c'est vraiment un parc extraordinaire, vous voyez. Et il y a un lac qui est présent là, et l'eau stagne. Et qu'est-ce qui se passe quand l'eau stagne? Ouh là là, nos narines sont en souffrance. Ça pue, ça sent mauvais. Dieu ne veut pas qu'on soit ainsi. Il veut que ça jaillisse sur les autres. Et voilà plusieurs textes qui sont très forts là. Ce qui devrait jaillir de nous, c'est Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Mince, la maîtrise de soi. Oui, ça doit jaillir de moi, Manu. Eh oui. Tout cela doit jaillir de nous. Et en passant, hein, comment ça peut jaillir de nous si on n'est pas en relation avec les autres? Comment je peux aimer quelqu'un si je ne suis pas en relation avec l'autre, hein? Tout ce fruit de l'esprit, si vous le regardez, il n'est que relationnel. Ce qui doit jaillir de nous, c'est Matthieu 22, 37 et 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta... Vous êtes encore là? Et tu aimeras ton prochain comme... toi-même. Ce qui doit jaillir de nous, c'est Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Normalement, si ça jaillit, on a envie que des milliers de personnes viennent à Christ. Combien de fois vous avez prié pour les non-croyants cette semaine? Combien de fois vous avez crié à Dieu pour le salut de votre voisin? C'est ça jaillir de moi, la source. Et puis un autre texte encore, ce qui doit jaillir, c'est Éphésiens 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Ainsi, vous vous encouragez mutuellement par le chant, les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels inspirés par l'Esprit. Vous louez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remerciez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettez les uns aux autres. la louange, c'est ça qui jaillit. Est-ce que ta louange est que le dimanche? Alors ça, c'est pas jaillir. Je suis désolé. Là, c'est de la religion, c'est du « je fais ça dimanche, puis après, dans la semaine, ça ne m'intéresse pas. » Si ça jaillit, c'est toute la semaine que ça jaillit, cette louange. Et quand on vient pour louer le Seigneur ensemble, on se dit « Ah, j'ai passé tellement de temps à louange et je me réjouis de vivre ce temps avec mes frères pour continuer à louer notre Dieu. » Et puis l'autre chose, c'est l'humilité dans nos relations. Quand ça dit « Soumettez-vous les uns aux autres », c'est l'humilité, l'amour. On pourrait encore prendre beaucoup de textes. La source qui jaillit, c'est l'œuvre puissante de l'Esprit en nous. Et ce n'est pas ce que nous produisons, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu produit. Mais pour que cela soit ainsi, je dois avoir soif. Est-ce que tu as soif de Dieu? La véritable soif de Dieu nous poussera dans les mains, dans les bras de Dieu. Sommes-nous satisfaits ce matin en Jésus-Christ? Ou est-ce que nous courons ailleurs, dans d'autres plaisirs? Avons-nous soif de Dieu? Avons-nous soif de le voir agir dans notre vie et dans celle des autres, au point de, peut-être de nous sacrifier pour eux, d'être constamment en prière pour eux? Est-ce que le fruit de l'Esprit de Dieu ne cesse de croître et de jaillir sur les autres? Est-ce que nous progressons en sainteté? Est-ce que nous progressons en amour? Est-ce que nous sommes une bénédiction pour les autres? Dieu a voulu d'Abraham qu'il soit une bénédiction pour les autres. Je te bénis pour que tu sois une bénédiction. Je ne te bénis pas pour que tu sois obèse spirituel, comme on avait dit une fois. J'ai entendu quelqu'un le dire un mardi, au groupe de maison. Ne soyons pas des obèses spirituels. Ce que nous recevons, donnons-le aux autres. Une chose qui m'a touché vraiment, c'est que dans ce texte, la satisfaction est liée, n'est pas juste liée à « j'ai bu, je viens à la source qui est Christ, et je suis satisfait ». Vous ne serez pas totalement satisfait, c'est bizarre ce que je vais dire, mais nous ne serons pas totalement satisfaits si nous venons juste à Christ et qu'il ne s'ajaillit pas. Le fait de jaillir est notre totale satisfaction. La satisfaction en Christ est totale et complète quand ça jaillit sur les autres. Il y a plus de joie. Vous l'avez dit, hein? Le texte est en train de nous dire, notre satisfaction est en Christ, et cette satisfaction est complète quand elle jaillit sur les autres. Je ne peux pas rester tout seul avec ce que je reçois quand je suis dans la présence de Dieu. J'ai envie de le communiquer, j'ai envie de le dire. Des milliers de personnes vont en enfer. Je ne veux pas ne pas prier pour eux. Je ne veux pas ne pas toquer pour dire « Christ, reviens !» Ça, c'est ce qui jaillit de nous. Dieu nous invite ce matin à reconnaître que nous avons besoin de lui. Il nous invite à venir à Jésus-Christ, à le rechercher sans cesse, à mieux le connaître, à l'aimer, à vivre dans la communion avec lui, à prier sans cesse, à jouir sans cesse de sa présence, à crier notre soif de lui, à trouver en lui notre satisfaction, à devenir des canaux de bénédiction pour les autres. Venons à Jésus-Christ, attachons-nous à lui, demeurons en lui, dans son amour, dans sa parole, dans sa présence. C'est ainsi que nous verrons notre vie porter du fruit. C'est ainsi que nous serons satisfaits en lui. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu continuera à nous remplir et que cela jaillira sur les autres pour la gloire de Dieu, le salut de plusieurs et aussi la satisfaction en Christ. Je vais prier. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons voulu chercher notre satisfaction ailleurs qu'en toi. Ça, c'est le cœur du péché. C'est de croire qu'ailleurs en toi, il y a mieux. Pardon, Seigneur. Merci d'être cette source qui jaillit des fleuves d'eau vive. Nous voulons venir à toi, croire en toi, te faire totalement confiance, rester attaché à toi et te laisser nous toucher pour que nous soyons sans cesse désaltérés. Nous sommes si faibles. Nous avons tant et tant besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne pouvons pas produire de fruits qui te glorifient. Aide-nous à reconnaître sans cesse que nous avons besoin de toi. Nous l'avons dit tout à l'heure, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Seigneur, nous voulons que ce soit même chaque seconde que notre cœur sans cesse te dise « J'ai besoin de toi, j'ai soif de toi ». Aide-nous à vivre sans cesse dans ton intimité, aide-nous à passer du temps avec toi et à trouver en toi ce dont nous avons vraiment besoin, ce dont notre âme a besoin. Je prie que nous ayons davantage soif de toi pour sans cesse boire, pour sans cesse venir à toi et prier et te faire confiance. Agis en nous pour la gloire de ton nom, le bonheur de ton Église et le salut de ce monde qui a tant besoin de toi. Merci Père. Amen.